Et cette COP26 fait aussi ce matin la une des journaux en France. Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
COP26, quelques progrès et bien des regrets.
Flop 26, soupir Libération en première page, tout ça pour ça, fulmine le journal quand on pense aux attentes suscitées par cette COP26, à l'énergie et aux moyens, souvent coûteux, en gaz à effet de serre, déployés. On ne peut qu'être épouvantablement déçu, voire révolté devant le résultat obtenu à Glasgow par les dirigeants de la planète. Le message envoyé aux jeunes mobilisés en masse pour tenter de sauver ce qu'il reste à sauver, c'est en gros, pointe encore Libération, on va tous dans le mur, mais laissez-nous en profiter à fond d'ici là. Le maintien du réchauffement de la planète à 1,5 degré maximum reste un vœu pieux et l'aide promise par les pays riches aux pays pauvres est remisée. Toutefois, tempère Libération, restons optimistes. La plupart des participants à ce grand raout mondial ne semblent pas spécialement fiers de leurs résultats et ils savent qu'ils ne pourront indéfiniment décevoir une population désormais sensibilisée à l'urgence climatique.
L'humanité est sur la même ligne.
Oui, les larmes d'Alok Sharma, le président britannique de la COP26, qui a présenté ses excuses au monde en concluant les travaux. Ces larmes donnent la mesure de la déception. Au final, l'ensemble des engagements pris aujourd'hui par les pays, s'ils sont respectés, devraient permettre de contenir le réchauffement climatique à 2,4 degrés d'ici à la fin du siècle, déjà bien au-dessus du 1,5 degré maximum acceptable. Si l'on veut conserver des conditions de vie décentes sur la planète. Bref, conclut Luma, on fonce dans le mur en toute connaissance de cause.
Le monde ne s'est pas vraiment rapproché de la ligne d'arrivée, constate aussi le Figaro.
Oui, les sommets de la dernière chance sont toujours suivis d'un nouveau rendez-vous. L'apocalypse est perpétuellement reportée à demain, souligne le Figaro. Entre-temps, prévaut la politique des petits pas qui consent à réduire le recours au charbon plutôt que d'en sortir et qui refuse aux victimes une aide financière promise de longue date. Les victimes étant les pays les moins pollueurs, mais les plus affectés de l'Afrique, ravagée par les criquets, aux îles menacées d'engloutissement.
Justement, pour ce qui est des pays pauvres, précisent les Échos, ils n'ont pas perdu une bataille à Glasgow, mais deux.
Oui, la sortie du charbon qu'ils souhaitaient voir figurer dans le texte final de la COP26 s'est transformée en réduction progressive, mais en plus, la reconnaissance de la responsabilité des pays développés, des pertes et dommages que le réchauffement climatique leur inflige, apparaît de façon très mince, en tout cas, pas sous la forme d'un fonds dédié aux financement des réparations de ces dégâts irréversibles, comme le voulaient les petits États insulaires du Pacifique. Ils se sont heurtés à un refus net de l'Union européenne et des États-Unis. Motif, il existe déjà un fonds d'adaptation dans le cadre duquel ce type d'intervention peut être financé. Une conception diamétralement opposée de celle des ONG, pointe les Échos, pour qui la couverture de ces dommages est un troisième pilier de l'action climatique, au même titre que l'atténuation et l'adaptation. Encore faudrait-il, dans ce dernier cas, que les 100 milliards de dollars par an promis pour 2020 soient atteints, ce qui sera peut-être le cas en 2025.
En fait, enchaîne la Charente libre, censée donner un coup d'accélérateur aux accords de Paris, la COP26 a surtout servi de révélateur à l'aggravation des fractures climatiques.
Incapables d'honorer leurs promesses de financement de la transition énergétique des pays pauvres, les riches répugnent à envisager l'addition et les éventuelles compensations des dégâts planétaires de l'ère industrielle. Ce dossier pertes et préjudices, dans le jargon onusien, augure d'incessantes et stériles foires d'empoigne. Avec la crise du Covid et sa gestion vaccinale planétaire erratique et défaillante vis-à-vis des pays pauvres, en parfait contre-exemple. Alors, finalement, conclut Ouest France, le consensus scientifique sur la réalité du dérèglement climatique nous engage tous. Kyoto, Paris, Glasgow, aucune grand-messe ne suffira sans cette vigilance permanente pour exiger dès l'an prochain au Caire, en Égypte, où se tiendra la COP27, des progrès tangibles.
La revue de la presse française signée Frédéric Couteau. Merci à vous. Et je vous rappelle qu'après le journal de 8h, on sera en ligne avec le climatologue et ancien vice-président du GIEC, Jean Jouzel. Il nous dira son appréciation après cette COP26 à Glasgow. À Paris, il est 7h52.